Comment Jacques perdit son pucelage. Extrait du roman de Denis Diderot, Jacques le fataliste et son maître. Adaptation pour la radio par Marco Poli. Présenté par le Théâtre de l'Oreille. Mise en onde, Marco Poli. Prise de son et montage, Pierre Bassoli.
Comment s'était-il rencontré ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il ? Que vous importe. D'où venait-il ? Du lieu le plus prochain. Où allait-il ? Est-ce que l'on sait où on va ? Que disait-il ? Le maître ne disait rien. Et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut.
C'est un grand mot que cela.
Mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet.
Et il avait raison. Tu as reçu une balle à ton adresse.
Vous l'avez deviné. Un coup de feu au genou. Et Dieu sait les bonnes et mauvaises aventures amenées par ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une gourmette. Sans ce coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais été amoureux de ma vie ni boiteux.
Tu as donc été amoureux ?
Si je l'ai été.
Et cela par un coup de feu ?
Par un coup de feu.
Tu ne m'en as jamais dit un mot ?
Je le crois bien.
Et pourquoi cela ?
C'est que cela ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard.
Et le moment d'apprendre ses amours est-il venu ?
Qui le sait ?
À tout hasard, commence toujours. Tu es blessé, donc installé en quelque château le plus proche, et la châtelaine a ordonné à sa jeune fille de te visiter 4 fois le jour et de te soigner. Mais avant que d'aller en avant, dis-moi... Avait-elle son pucelage ?
Je le crois.
Et toi ?
Le mien. Il y avait beau jour qu'il courait les champs.
Tu n'en étais donc pas à tes premières amours.
Pourquoi donc ?
C'est qu'on aime celle à qui on le donne, comme on est aimé de celle à qui on le ravit.
Quelquefois oui, quelquefois non.
Et comment le perdis-tu ?
Je ne le perdis pas, je le troquais.
Dis-moi alors un mot de ce troc-là.
Ce sera une kyrielle à ne point finir depuis la première jusqu'à la dernière.
Qui crut la voir et qui ne l'eut point.
Et avant elle, les deux voisines de notre chaumière.
Qui crurent la voir et qui ne l'eurent point.
Non.
Manquer un pucelage à deux, cela n'est pas trop adroit.
Tenez, mon maître, je devine au coin de votre lèvre droite qui se relève et à votre narine gauche qui se crispe. Il vaut autant que je fasse la chose de bonne grâce que d'en être prié. C'était un jour de noces. Frère Jean avait marié la fille d'un de ses voisins. J'étais garçon de fête. On m'avait placé à table entre les deux goguenards de la paroisse. J'avais l'air d'un grand nigaud, ou quoique je ne le fusse pas tant qu'ils le croyaient. Ils me firent quelques questions sur la nuit de la mariée. J'y répondis assez bêtement, et les voilà qui éclatent de rire, et les femmes de ces deux plaisants à crier de l'autre bout.
Qu'est-ce qu'il y a donc ? Vous êtes bien joyeux là-bas.
Oh, c'est que c'est pas trop drôle. Je te conterai cela ce soir.
L'autre, qui n'était pas moins curieux, fit la même question à son mari, qui lui fit la même réponse. Le repas continuait, les questions et mes balourdises, les éclats de rire et la surprise des femmes. Après le repas, la danse. Après la danse, le coucher des époux, le don de la jarretière, moi dans mon lit, et mes goguenards dans les leurs racontant à leurs femmes la chose incompréhensible, incroyable, c'est qu'à 22 ans grand et vigoureux comme je l'étais, assez bien de figure, alerté, poinceau, j'étais aussi neuf, mais aussi neuf qu'au sortir du ventre de ma mère, et les deux femmes de s'en émerveiller ainsi que leur mari. Et dès le lendemain, Suzanne me fit signe.
Jacques, n'as-tu rien à faire ?
Non, voisine. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ?
Je voudrais...
Et en me disant « je voudrais », elle me serrait la main et me regardait si singulièrement.
Je voudrais que tu prisses notre serpe et que tu vinses dans la commune m'aider à couper 2 ou 3 bourrées, car c'est une besogne trop forte pour moi seule.
Très volontiers, madame Suzanne.
Je pris la serpe et nous allons. Chemin faisant, Suzanne se laissait tomber la tête sur mon épaule, me prenait le menton, me tirait les oreilles, me pinçait les côtes.
Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite.
Nous arrivons. L'endroit était en pente. Suzanne se couche à terre tout de son long, à la place la plus élevée, les pieds éloignés l'un de l'autre et les bras passés par-dessus la tête. J'étais au-dessous d'elle, jouant de la serpe sur le taillis, et Suzanne repliait ses jambes, approchant ses talons de ses fesses. Ses genoux élevés rendaient ses jupons fort courts. Et je jouais toujours de la serpe sur le taillis, ne regardant guère où je frappais et frappant souvent à côté. Enfin.
Jacques, est-ce que tu ne finiras pas bientôt ?
Quand vous voudrez, madame Suzanne.
Est-ce que tu ne vois pas que je veux que tu finisses ?
Je finis donc. Je repris haleine. Et je finis encore. Et Suzanne...
T'ôtait ton pucelage que tu n'avais pas.
Il est vrai, mais Suzanne ne s'y méprit pas.
Tu en as donné d'une bonne à garder à notre homme. Et tu es un fripon.
Que voulez-vous dire, madame Suzanne ?
Rien. Tu m'entends de reste. Trompe-moi encore quelques fois de même, et je te le pardonne.
Je reliai ses bourrées. Je les pris sur mon dos et nous revînmes. Elle à sa maison, moi à la nôtre.
Sans faire une pause en chemin ?
Non.
Il n'y avait donc pas loin de la commune au village ?
Pas plus loin que du village à la commune.
Elle ne valait que cela ?
Elle valait peut-être davantage pour un autre jour. Chaque moment a son prix. À quelque temps de là, Dame Marguerite, c'était la femme de notre autre goguenard, avait du grain à faire moudre et n'avait pas le temps d'aller au moulin. Elle vint demander à mon père un de ces gaillards qui alla pour elle. Comme j'étais le plus grand, elle ne doutait pas que le choix de mon père ne tombât sur moi, ce qui ne manqua pas d'arriver. La Marguerite sort. Je la suis. Je charge le sac sur son âne et je le conduis seul au moulin. Voilà son grain moulu et nous nous en revenions, l'âne et moi, assez tristes car je pensais que j'en serais pour ma corvée. Je me trompais. Il y avait entre le village et le moulin un petit bois à passer. Ce fut là que je trouvai Dame Marguerite assise au bord de la voie. Le jour commençait à tomber.
Jacques, enfin te voilà. Sais-tu qu'il y a plus d'une heure que je t'attends ?
C'est que l'eau était basse, que le moulin allait lentement, que le meunier était ivre et que quelques diligences que j'ai faites, je n'ai pu revenir plus tôt.
Assieds-toi là et jasons un peu.
Dame Marguerite, je le veux bien.
Me voilà assis à côté d'elle pour jaser et cependant nous gardions le silence tous deux.
Mais, Dame Marguerite, vous ne me dites mot et nous ne jasons pas.
C'est que je rêve à ce que mon mari m'a dit de toi.
Ne croyez rien de ce que votre mari vous a dit. C'est un gosseur.
Il m'a assuré que tu n'avais jamais été amoureux.
Oh. Pour cela, il a dit vrai.
Quoi ? Jamais de ta vie ?
De ma vie ?
Comment ? À ton âge, tu ne saurais pas ce que c'est qu'une femme ?
Pardonnez-moi, Dame Marguerite.
Et qu'est-ce que c'est qu'une femme ?
Une femme ?
Oui, une femme.
Attendez. C'est un homme qui a un cotillon... Une cornette et de gros tétons.
Ah, scélérat.
L'autre ne s'y était pas trompé et je voulais que celle-ci s'y trompât. À ma réponse, Dame Marguerite fit des éclats de rire qui ne finissaient point Et moi, tout à Berry.
Qu'avez-vous tant à rire?
Je ris de ta simplicité. Comment, grand comme tu es, vrai, tu n'en saurais pas davantage?
Non, Dame Marguerite.
Là-dessus, Dame Marguerite se tue, et moi aussi.
Mais, Dame Marguerite, nous nous sommes assis pour jaser, et voilà que vous ne dites mot, et que nous ne jasons pas. Dame Marguerite, qu'avez-vous? Vous rêvez?
Je rêve. Je rêve. Je rêve.
En prononçant ces « je rêve », sa poitrine s'élevait, sa voix s'affaiblissait, ses membres tremblaient, ses yeux s'étaient fermés, sa bouche était entrouverte. Elle poussa un profond soupir, elle défaillit, et je fis semblant de croire qu'elle était morte et me mis à crier du ton de l'effroi.
Dame Marguerite! Dame Marguerite, parlez-moi donc! Dame Marguerite, est-ce que vous vous trouvez mal?
Non, mon enfant. Laisse-moi un moment en repos. Je ne sais ce qui m'a prise. Cela m'est venu subitement.
Elle mentait.
Oui, elle mentait.
C'est que je rêvais.
Rêvez-vous comme cela, la nuit, à côté de votre mari?
Quelquefois.
Cela doit l'effrayer.
Il y est fait.
Marguerite revint peu à peu de sa défaillance.
Je rêvais qu'à la noce, il y a 8 jours, notre homme et celui de la Suzanne se sont moqués de toi. Cela m'a fait pitié et je me suis trouvée toute... je ne sais comment.
Vous êtes trop bonne.
Je n'aime pas qu'on se moque. Je rêvais qu'à la première occasion, il recommencerait de plus belle et que cela me fâcherait encore.
Mais il ne tiendrait qu'à vous que cela n'arrive plus.
Et comment?
En m'apprenant.
Et quoi?
Ce que j'ignore, et ce qui faisait tant rire votre homme et celui de la Suzanne, qui ne rirait plus.
Oh, non, non. Je sais bien que tu es un bon garçon, et que tu ne le dirais à personne, mais je n'oserais.
Et pourquoi?
C'est que... je n'oserais.
Oh, Dame Marguerite, apprenez-moi. Je vous en prie, je vous en aurai la plus grande obligation. Apprenez-moi.
En la suppliant ainsi, je lui serrais les mains, elle me les serrait aussi. Je lui baisais les yeux, elle me baisait la bouche. Cependant, il faisait tout à fait nuit.
Je vois bien, Dame Marguerite, que vous ne me voulez pas assez de bien pour m'apprendre. J'en suis tout à fait chagrin. Allons, levons-nous, retournons-nous-en.
Dame Marguerite se tut. Elle reprit une de mes mains. Je ne sais où elle la conduisit, mais le fait est que je m'écriais...
Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Scélérat. Double scélérat.
Le fait est qu'elle était fort déshabillée et que je l'étais beaucoup aussi. Le fait est que j'avais toujours la main où il n'y avait rien chez elle et qu'elle avait placé sa main où cela n'était pas tout à fait de même chez moi. Le fait est que je me trouvais sous elle et par conséquent elle sur moi. Le fait est que ne la soulageant d'aucune fatigue, il fallait bien qu'elle la prît tout entière. Le fait est qu'elle se livrait à mon instruction de si bon cœur qu'il vint un instant où je crus qu'elle en mourrait. Le fait est qu'aussi troublée qu'elle et ne sachant ce que je disais, je m'écriais...
Ah, Dame Suzanne, que vous me faites aise!
Tu veux dire Dame Marguerite?
Non, non. Le fait est que je pris un nom pour un autre et qu'au lieu de dire Dame Marguerite, j'ai dit Dame Suzon. Le fait est que j'avouais à Dame Marguerite que ce qu'elle croyait m'apprendre ce jour-là, Dame Suzon me l'avait appris, un peu diversément à la vérité, il y avait 3 ou 4 jours. Le fait est qu'elle me dit...
Quoi? C'est Suzon et non pas moi?
Le fait est que je répondis...
Ce n'est ni l'une ni l'autre.
Le fait est que, tout en se moquant d'elle-même, de Suzon, des deux maris, et qu'en me disant de petites injures, je me trouvais sur elle, et par conséquent elle sous moi, et qu'en m'avouant que cela lui avait fait bien du plaisir, mais pas autant que de l'autre manière, Elle se retrouva sur moi et par conséquent moi sous elle. Le fait est qu'après quelque temps de repos et de silence, je ne me trouvais ni elle dessous ni moi dessus, ni elle dessus ni moi dessous, car nous étions l'un et l'autre sur le côté, qu'elle avait la tête penchée en devant et les deux fesses collées contre mes deux cuisses. Le fait est que si j'avais été moins savant, la bonne dame Marguerite m'aurait appris tout ce qu'on peut apprendre. Le fait est que nous eûmes bien de la peine à regagner le village.
Et tu n'as pas revu ces femmes?
Pardonnez-moi, plus d'une fois.
Toutes deux?
Toutes deux.
Elles ne se sont pas brouillées.
Utiles l'une à l'autre, elles s'en sont aimées davantage.
Et alors? Et alors? Mais raconte enfin!
Un jour, un enfant, assis au pied du comptoir d'une lingère, criait de toute sa force. La marchande, importunée de ses cris, lui dit
« Mon ami, pourquoi criez-vous ? »
« C'est qu'ils veulent me faire dire « ah ». »
« Et pourquoi ne voulez-vous pas dire « ah » ?»«
C'est que je n'aurais pas si tôt dit « ah » qu'ils voudront me faire dire « b ». »« C'est que je ne vous aurais pas si tôt dit la suite qu'il faudra que je vous dise le reste. »«
Peut-être. » »«
Cela est sûr. »
Allons, mon ami Jacques, continue. Tu en meurs d'envie, n'est-ce pas? Satisfais-toi.
Un jour, j'étais dans la grange de Suzon, seul avec elle, lorsqu'arriva une espèce de nain bossu, crochu et bègue. C'était le vicaire du village. Nous voyant, il prend de l'humeur, gronde, demande impérieusement à Suzon ce qu'elle fait en tête-à-tête avec le plus débauché des garçons du village, dans l'endroit le plus reculé de la chaumière. Il était amoureux et peut-être aimé de Suzon.
Tu avais déjà de la réputation, à ce que je vois.
Et assez bien mérité. Il était vraiment fâché. Je me fâche de mon côté, d'injure en injure nous en venons aux mains, je saisis une fourche, je la lui passe entre les jambes, fourchon d'ici, fourchon de là, et le lance sur le fenil, ni plus ni moins comme une botte de paille.
Et ce fenil était haut ?
De 10 pieds au moins, et le petit homme n'en serait pas descendu sans se rompre le cou. Après, j'écarte le fichu de Suzon, je lui prends la gorge, je la caresse. Elle se défend comme cela. Il y avait là un bas d'âne dont la commodité nous était connue. Je la pousse sur ce bas.
Tu relèves ses jupons ?
Je relève ses jupons.
Et le vicaire voyait cela ?
Comme je vous vois.
Et il se taisait.
Non pas, s'il vous plaît. Ne se contenant plus de rage, il se mit à crier.
Meurtre ! Au voleur !
Et voilà le mari que nous croyons loin qui accourt.
J'en suis fâché. Je n'aime pas les prêtres.
Vous auriez été enchanté que sous les yeux de celui-ci...
J'en conviens.
Suzon avait eu le temps de se relever. Je me rajuste, me sauve. Et c'est Suzon qui m'a raconté ce qui suit. Le mari qui voit le vicaire perché sur le fil se met à rire.
Rie bien, sot que tu es.
Le mari de lui obéir... Et de rire de poubelle et de lui demander « Qui est-ce qu'il a niché là ?»«
Mets-moi à terre !»
Le mari de rire encore et de lui demander comment il faut qu'il s'y prenne.
Comme j'y suis monté avec la fourche.
Par sanguine, vous avez raison. Voyez ce que c'est que d'avoir étudié.
Il prend la fourche, la présente au vicaire. Celui-ci s'enfourche comme je l'avais enfourché. Le mari lui fait faire un ou deux tours de grange au bout de l'instrument de basse-cour, accompagnant cette promenade d'une espèce de chant en faubourg d'envoi.
Descends-moi, Maro. Descendras-tu?
À quoi tient-il, monsieur le vicaire, que je ne vous montre ainsi dans toutes les rues du village? On n'y aurait jamais vu une aussi belle procession.
Cependant, le vicaire en fut quitte pour la peur et le mari le mit à terre. Je ne sais ce qu'il dit alors au mari, car Susan s'était évadée, mais j'entendis...
Malheureux, tu frappes un prêtre! Je t'excommunie, tu seras damné!
Le petit bonhomme vociférait, le mari le pourchassait à coups de fourche. J'arrivais avec beaucoup d'autres, et d'aussi loin que le mari m'aperçoit, mettant sa fourche en arrêt...
Approche!
Et Susan?
Elle s'en tira.
Mal?
Non. Les femmes s'en tirent toujours bien quand on ne les a pas surprises en flagrant délit. De quoi riez-vous?
C'est ce qui me fera rire, comme toi, toutes les fois que je me rappellerai le petit prêtre au bout de la fourche du mari.
Ce fut peu de temps après cette aventure, qui vint aux oreilles de mon père et qui en rit aussi, que je m'engageais, comme je vous ai dit.
Après quelques moments de silence ou de tout de la part de Jacques, disent les uns, ou après avoir ri, disent les autres.
Et l'histoire de tes amours?
Jacques hocha la tête et ne répondit pas.
C'était « Comment Jacques perdit son pucelage ». Extrait du roman de Denis Diderot, « Jacques le fataliste et son maître ». Adapté pour la radio par Marco Poli et présenté par le Théâtre de l'Oreille. Dans le rôle du narrateur, Claude Prélot. Le maître, Jean-Claude Humbert. Jacques, son valet, Marco Poli. Jacques jeune et le vicaire, Gilbert Zengafinan. Un mari, Pierre Basselli. Suzanne, Anne Torrent. Marguerite, Elena Landrossi. Mise en onde, Marco Poli. Prise de son et montage, Pierre Basselli.